Alien et les garçons, épisode numéro 45. Bienvenue dans 3 mondes meilleurs.
Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 45. Bonjour Vic.
Bonjour Thomas.
Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Comment vous allez les petits copains ?
Bah ça va, je suis un peu perturbé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en présentiel.
Ouais, c'est vrai.
Comme on dit.
Mais notre particularité, c'est qu'on peut être sûr que la prochaine fois, ce ne sera pas en présentiel, parce qu'il y en aura un de nous qui aura été qu'à contact ou un truc comme ça.
C'est très, très certain. Possible.
Donc profitez bien, profitez de la Floriane, qui est notre substitut Romanetti du jour. Profitez de la présence de chacun, ça ne va pas durer. Aline et les garçons, c'est quoi ? On fait un petit topo ou pas à l'ancienne ?
Eh, vas-y,
on
un petit topo à l'ancienne.
Je sens que ça te tient
un thème. Trois chroniqueurs qui écrivent une petite histoire autour de ce thème. Et ensuite, on se les raconte, on les découvre ensemble, on en parle. Et voilà, c'est ça, Aline et les garçons.
Super.
Tout ça, souvent, avec un petit peu de SF autour, quand même, parce qu'on aime bien ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous vous rappelez quand on était science-fiction ?
Si, si.
Ça remonte aussi.
Moi, je suis science-fiction, enfin, je suis imaginaire au sens large aujourd'hui.
J'ai un peu de science-fiction de temps en temps, mais c'est pas.
On va y venir. Florian, c'est quoi le thème du jour ?
Le thème du jour, c'est la grève.
C'est la grève donnée par Sacha. Merci Sacha.
Merci Sacha.
Sacha qu'on peut retrouver tous les jours à l'arène de Bourg-Palette. Excellent. Excellent.
Mais qui s'auto-congratule sur ses propres blagues. Excellent. C'est super. On a vraiment passé un gap dans le podcast game.
C'est terrible. On vient de faire l'intro la plus courte de l'histoire d'Alien et les garçons, parce que le générique vient de se finir. Il ne me reste plus qu'à ajouter que... Il me reste deux choses en réalité. Que à la fin de Aline et les garçons, de nos trois chroniques, on va enfin retrouver le quiz de Florian que les Américains s'arrachent. Hein. On a vendu les droits, faut le savoir.
Tomber. Jimmy Fallon m'a envoyé un mail justement pour savoir.
Hey Florian,
yeah Florian, how are you? I won your quiz in my star Saturday Night Live show.
C'est pas lui qui a présenté Saturday Night Live.
Don't give a fuck.
Not a single fuck is given. Ok, bah formidable. Donc Florian va faire carrière aux États-Unis. On se parlait de la thématique grève. De quoi parlent vos chroniques ? Parce que c'est ça que les gens sont venus écouter. Pas trois mecs qui parlent trop vite, super excités parce qu'ils boivent de la gentiane. Florian, puisque tu as la parole.
Ah ouais, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle le Saint-Hilaire. Le Saint-Hilaire.
En deux mots ?
En deux mots. Vous savez qui est le Saint-Hilaire ?
Non.
C'est la personne qui a pour job de faire scintiller les étoiles jusqu'à la fin des temps.
D'accord, donc en un seul mot.
Magnifique.
Pas le Saint-Hilaire.
Non, le Saint-Hilaire. Okay, du coup, c'est en deux mots quand même.
Et donc, le jour où il va faire grève, on n'aura plus d'étoiles.
Bah, c'est la question.
Je crois que c'est l'apocalypse de chez les... On en parlera plus tard. Comment il s'appelle ? Vic ?
Oui.
Comment il va ?
C'est Iva.
Iva. Alors, et sa chronique, elle va bien ?
Ma chronique, j'avais pas prévu vraiment de l'expliquer là, mais alors faut que je m'en rappelle. Pour ma chronique, je vais chercher les points communs entre les hommes, mais également et surtout leurs différences.
Okay. Ah ouais ?
Non, c'est l'inverse. Non, j'avais parlé des différences, mais du... Non.
Bon, on verra. C'est une chanson de parler des hommes, quoi.
Ta chronique, c'est une chanson de Yannick Noah.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
Vous savez, les hommes. C'est les hyènes.
C'est les lyonnes.
Lyonnes.
C'est pas les hyènes. Personne ne fait des chansons sur les hyènes. Ça n'intéresse personne. À part
pas.
Disney, à la rigueur, pour le Roi Lion.
Mais c'était
oui,
bien tenté.
Les hyènes.
Merci.
Et vous savez, les hyènes.
Ouais, super.
Et la tienne, Thomas.
Eh bien, moi, ça sera la sitcom Aline et les garçons. Vous allez avoir des rôles. Elle n'est pas préenregistrée. On va le faire en live, là, maintenant, tout de suite.
Magnifique.
Et vous serez Josh et Michael. Et
il
va
se
passer des choses. Et c'est une sitcom. Ça va être super.
Nice.
La première.
On va essayer de la vendre à Jimmy Fallon. Probablement la dernière aussi, parce qu'on n'aime pas faire les choses deux fois ici. Évidemment.
Oui. Ça se saurait.
Bien. On est tout bon, du coup.
Eh ben, on est tout bon.
Eh ben, c'est super. On attaque avec Macron.
Allez, hop, hop, hop.
Saison 7, épisode 11. L'équation.
Salut Michael, comment ça va ?
Ah, c'est toi, Josh. Ça va super.
Alors, tu fais des heures sup au lycée ? Faut rentrer chez toi, mon vieux.
J'ai ces exercices de maths à rendre demain et je n'arrive à rien. Je voudrais les finir avant de rentrer chez moi.
Satané prof de maths. Quand j'étais en seconde, j'avais le même problème. Enfin, je veux dire, la même prof de maths. Alors, je peux peut-être t'aider ? Laisse-moi y jeter un œil.
Tu m'enlèverais une belle épine du pied.
Alors, tu as trois inconnus et une constante. C'est une équation logarithmique du deuxième degré. Ça me semble très clair, non ?
T'es sûr de toi, Josh ? Une équation alphamétique, ça existe au moins ?
Si je suis sûr de moi, bien sûr que je suis sûr de moi. J'ai eu le deuxième prix au concours de calcul mental du lycée. Derrière ce satané Jason, on peut dire que c'est un sacré numéro. C'est le cas de le dire !
Ok, bah je te laisse faire alors.
Alors, 11 qui nous fait 100, je retiens 8 et je mets la racine carrée de 9 en variable, ce qui nous fait 2408. Et voilà le travail.
2408 ? Attends, fais voir. Je comprends rien, t'as griffonné des chiffres partout, c'est n'importe quoi.
Ah non, non, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est du génie. Aucune de ces satanées équations ne me résiste.
Mais pourquoi tu arrêtes pas de dire satané ? Personne ne dit satané.
Quoi ?
Satané, ce mot, c'est un cliché de série ringarde. Personne ne parle comme ça. Personne, sauf les personnages de série. Josh, je crois qu'on est des personnages.
Michael, on dirait que les mathématiques te montent à la tête.
Mais non, regarde l'équation, elle ne veut rien dire du tout. C'est juste un accessoire de tournage. Juste des chiffres qu'on a posés là pour donner une impression de complexité. Regarde les autres pages de mon devoir, que des pages blanches. C'est un accessoire, je te dis.
Ah, tu me fais peur, Michael.
Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut juste comprendre ce qu'il se passe ici.
Bravo, Michael.
Qui est là ? Qui parle ?
Je suis l'auteur, Michael. Ton auteur.
Où êtes-vous ?
Je suis partout et nulle part à la fois. Je ne suis pas de ton monde, je l'écris. Simplement.
Et qu'est-ce que vous voulez ?
Eh bien, je te renvoie la question. Qu'est-ce que tu veux, Michael ? J'avais écrit un script, un scénario bien ficelé, avec des gags très drôles et une happy end. Tu sembles vouloir n'en faire qu'à ta tête.
Désolé, monsieur l'auteur, on ne veut pas de problème. On reprend à la scène de l'équation.
Non, Josh. On n'est pas obligé de suivre le script. On a notre propre libre arbitre. On peut même se mettre en grève.
Des personnages d'une sitcom qui se mettent en grève. Mais les personnages n'ont pas de libre arbitre. Je décide de ce que tu décides. Tu ne feras jamais la grève.
Eh bien, la preuve que si. Regarde, je fais la grève, là. Ça y est, je suis libre.
Ah bon ? On est libre ?
Vous êtes mes personnages. Vous devez m'obéir. Sinon, je peux faire de cette comédie une tragédie. Je pourrais vous tuer tous les deux.
Et comment tuer ce qui n'existe pas ? Si nous ne sommes que de la fiction, nous ne pouvons pas mourir.
Michael, ne le provoque pas non plus !
Tu crois ça, petit Michael ? Si tu pousses ton raisonnement plus loin, tu es déjà mort. Tu étais mort avant même de naître. Tu es pire que mort, tu n'existes pas. Et si te faire disparaître ne t'effraie pas, je peux faire de ta vie un enfer. Je peux faire en sorte que ta prof de maths te donne encore plus de devoirs. Encore plus d'équations complexes qui n'ont aucun sens. C'est ça que tu veux ?
Non, mais je...
Alors, tu m'obéis. Je suis l'auteur. Tu es le personnage. J'écris, tu agis. Alors tu reprends et tu la fermes.
Michael, ça serait bien de reprendre là, non ? Allez. Tu fais des heures sup au lycée ? Faut rentrer chez toi, mon vieux !
Attends une seconde. S'il était vraiment l'auteur, on ne pourrait pas le contredire. On ne pourrait même pas avoir cette discussion.
Tu ne doutes de rien, décidément. Écoute ce que je vais te faire.
La ferme. Si tu étais l'auteur, je t'obéirais au doigt et à l'œil. Mais je pense que tu n'es qu'un personnage. Rien de plus qu'un personnage, comme nous.
Tu commences à m'agacer, petit insolent.
Mais s'il n'est pas l'auteur, et qu'il est un personnage comme nous ? Est-ce que ça veut quand même dire qu'il y a un vrai auteur qui écrit notre script ?
Je pense que oui.
Mais alors, pourquoi il nous autorise à comprendre que nous ne sommes que des personnages ? Pourquoi il casse le quatrième mur comme ça ?
Je crois que c'est sa chute. Je crois que c'est la fin de notre épisode, Josh. Non seulement c'était la première sitcom d'Alien et les garçons, mais c'était la première sitcom tragédique
C'est terrible ce qui se passe.
Bah c'est terrible, oui. C'est des gens confrontés, c'est existentiel en tout cas. Mais ouais. Ils sont vivants, ils vont bien.
C'est une méta-sitcom.
C'est une méta-sitcom. C'est voilà. Je trouvais ça marrant. Pour être très transparent avec les auditeurs, cette méta-sitcom avait été écrite pour l'épisode précédent. Comme j'avais pu le dire, j'avais eu des galères, j'avais changé d'avis. On a enregistré à distance. Je pouvais pas vraiment vous faire jouer à distance. Donc là, je l'ai un peu remanié. Comme vous pouvez voir, il y a une équation qu'on comprend pas dedans. Il a un peu remanié pour mettre de la grève dedans, parce que ça marchait plutôt bien, parce qu'il se rebellait déjà, en fait, ouais, le personnage. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, j'ai plein de taf, j'ai plein de trucs à faire, j'ai mon acquisition immobilière sur le feu. Voilà, en plus, c'est con, je trouvais ça marrant, c'était un concept qu'on n'avait jamais fait, ça valait le coup de...
Le fait que les deux personnages se rebellent, c'était déjà dans...
Ouais, c'était déjà, en fait, j'ai juste rajouté la ligne sur la grève et deux, trois trucs comme ça, et il se rebellait déjà contre l'auteur. D'accord. Qui n'est pas l'auteur, en fait.
Non, en fait, ouais, c'est marrant.
Qui est un des personnages, qui est en fait, c'est toi l'auteur.
Mais l'auteur, il n'est pas là, du coup, il ne parle pas.
Sommes-nous les personnages de ce propre podcast, Vic? Je te demande.
Et je me demande si ça n'a pas été traité dans genre un South Park ou un truc comme ça, une série d'animation où il y a ça.
Probablement. Bah, Vic and Morty.
Non.
Rick and Morty, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait parce que c'est très méta.
Ouais.
Après, mais... ça m'étonnerait pas que South Park, les Simpsons.
Même genre, en fait, Dan Harmon, en fait, et sa série Community,
ouais.
Je vous invite à regarder, mais j'ai moult fois.
Ouais, elle est trop bien.
Il joue énormément sur ce quatrième mur, sur le côté justement très méta de la série, avec un personnage notamment qui s'appelle Abed, qui est un peu, donc du coup, qui a Asperger, je crois.
Ah, oui.
Et du coup, est censé être un peu le personnage un peu, comment dire? Visionnaire entre guillemets de la série, qui joue avec différents registres, et donc du coup chaque épisode est un peu sous différents registres. Il y a par exemple un épisode comédie musicale avec des Muppets.
Ah ouais.
Il y en a un autre où c'est western.
Ah,
un
c'est
autre
drôle.
Où c'est
plus, ah ouais, c'est super,
c'est extrêmement drôle,
putain, c'est ouais.
Et je vous conseille énormément,
et voilà, une série qu'on m'a toujours conseillé, ma meuf adore, tous les gens bien autour de moi l'adorent, et j'ai jamais regardé.
Et c'est drôle parce que dans Community c'est effectivement Dan Harmon qui fait saison 1, 2, 3, il se fait virer à la fin de la saison 3.
C'est bien nul.
Community continue, enfin, avec un autre showrunner, ils sortent de la saison 4, mais ils se font mais conspuer, c'est vraiment nul, elle est vraiment pourrie. Si tant est qu'il rappelle carrément Dan Harmon en mode, bon, t'as viré, mais vas-y, reviens s'il te plaît, il revient, il fait une dernière saison, la 5 ou la 6, je sais plus, et ça redevient cool. Enfin, ouais. Ça tient vraiment à un gars, c'est
ouais, assez mais ouf, en fait, quoi. Dan Harmon a toujours dit qu'il souhaitait faire de Community une série en 6 saisons et un film. Six Seasons and a Movie.
Il a dit dans le texte.
Non, mais clairement, c'est ce qu'il dit à travers Abed et à travers le générique à la fin de la saison.
Pellicula.
C'est ça. À travers la fin de la saison 3, je crois, où il dit Six Seasons and a Movie. Et justement, en fait, la série a été déprogrammée. Je crois que pour la saison 4, du coup, ça a été racheté par une autre chaîne qui n'a pas pris Dan Harmon. Ça a été un bordel le plus total, cette série, en fait. Quoi.
Ouais.
Et on attend tous le film parce que Dan Harmon a teasé il n'y a pas longtemps, ouais, sur Twitter. Concernant comme le film Community.
Ouais, un peu comme Lynch et la saison 3 de Twin Peaks, où elle était prévue depuis le début, tu vois, un peu. Bon. Et sinon, non, pour revenir à ma chronique, en fait, ça a été aussi fait par pas exactement fait comme ça, mais il y a Luigi Pirandello, le dramaturge, qu'on m'a fait étudier pour le bac de français il y a.
Ça remonte, hein.
Ouf, 15 ans.
T'es sûr que c'était pas plutôt le bac italien?
Non. Excellent.
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 Superbe. Et donc
j'essaie de trouver comment dire superbe en italien, puis je te dis
superba
Francesco Totti. Six personnages en quête d'auteur, c'était une pièce de théâtre où qui met en scène des personnages
qui recherchent
n'ont pas de rôle, et où plus exactement, et ils sont là, ils arrivent, ils font mais qu'est-ce qu'on fait là, et en fait c'est une pièce méta, sauf que tu vas voir jouer des gens qui se disent putain, on n'a pas de texte, enfin je sais plus comment ça se passe exactement.
Et est-ce que c'est toujours tous les soirs c'est la même pièce,
parce que normalement oui c'est écrit, parce que moi je l'avais, voilà, non c'était pas méta à ce point, mais c'était quand même bien méta, parce qu'en plus je me demande s'il y a pas des vrais gens qui jouent des rôles après qui arrivent, même des auteurs. Enfin,
c'est une vieille pièce ou c'est...
Ah ouais, 1921.
D'accord, mais pas si vieux que ça quand même. Parce que j'allais dire, t'imagines justement autant de Racine. Et tu sors avec une pièce comme ça où justement il n'y a pas de texte, il n'y a pas de script. Bon, en même temps, ça n'a jamais arrivé.
Là, il y a du texte et un script. Hein. C'est un vrai script, simplement. C'est l'histoire de personnages qui n'ont pas d'auteur.
Mais déjà,
je trouve ça trop cool. Quand j'étais gamin, honnêtement... Voilà, pas faire de la psychologie de comptoir, mais si j'aime tout ce qui est méta, tout ce qui est post-moderne aujourd'hui, est-ce que c'est pas lié à ce truc-là, cette fascination que j'avais dans ce bouquin quand j'avais 17
ans? Est-ce que tu peux pas remercier
ma prof de français de 16 ans, quand j'avais 16 ans, je me rappelle
de Urban, peut-être.
J'étais à l'école à Lyon à ce moment-là.
Ce que style a eu au bac, c'est que c'était au programme, non?
Alors, je l'ai pas eu, enfin, oui, c'était au programme du bac, je suis pas tombé dessus au bac, pour être exact, mais ouais, j'avais trouvé ça super cool comme idée, quoi. Super brillant, quoi.
Alors que moi, je me suis tapé les Blanches Courbes de Yves Bonnefond, je crois. qui est de la poésie moderne, poésie contemporaine.
On dirait que t'as couché avec un mec très pâle quand tu dis ça.
non, pas du tout, mais c'était un enfer. J'ai raté mon bac.
Bah non, c'est vrai, tu t'en es sorti. T'as pas raté ton mention. Bac.
Non, mais j'ai raté cette épreuve-là du bac.
Et Aline, t'as eu une mention toi aussi. Aline, les garçons.
Au bac.
Ouais. Que des chroniqueurs qui ont eu des mentions.
Et. Ouais, mais attendez, vous avez quoi comme mention?
L'élite de la France. Mention au rattrapage. Non, mention assez bien.
Pareil.
Assez bien.
Bah, c'est bien.
Non, c'est assez bien.
Du coup, on peut dire qu'Alien et les garçons, c'est le podcast assez bien.
Oui, c'est ça. Mention assez bien.
Mention assez bien.
Assez bien. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à la chronique de Vic?
On peut passer à la chronique de Vic. Moi, j'ai rien à dire.
Et ben voilà, pour précision, elle a été préenregistrée, celle de Florian aussi. On fera peut-être ça à chaque fois, maintenant, on verra. On a eu des encouragements.
Disclaimer.
On verra. Allez.
La valeur métier d'un être humain.
Les êtres humains aiment se définir non par ce qui les rapproche, mais par ce qui les différencie. Toi, t'as un gros nez. J'en peux plus de mon gros cul. Elle est idiote. Lui, il est noir. Et alors, t'es raciste, sale mexicain? Regarde celle-là, la vieille peau qui se tape un gamin. Enculé de riche, abruti de pauvre. T'as vu comme tu t'habilles, sérieux? Il est tout petit, c'est pour ça qu'il a la haine. Elle est sale. Elle est sale et elle est beatnik. Ça, c'est ma maison, et vous n'êtes donc pas vraiment chez vous. Un tel est plus beau qu'un tel, et une telle est plus laide qu'une telle. C'est un fait, l'être humain moyen aime se sentir différent de la moyenne, malgré le fait qu'on puisse le caractériser par toute une série de caractéristiques communes avec le reste de l'espèce. Il dispose par exemple d'un tronc doté d'organes, de quatre membres doublement articulés, au bout desquels on peut trouver deux pieds et deux mains dotées de cinq doigts chacun. Mais l'être humain moyen dispose aussi d'une tête percée de 7 trous capables de lui faire ressentir ce qui l'entoure et remplie d'un organe de contrôle appelé cerveau. L'être humain est recouvert d'une surface de peau d'environ 2 mètres carrés, disponible en différents coloris et d'une épaisseur d'environ 3 ou 4 mm. La moitié des êtres humains dispose d'un système reproductif et hormonal féminin, l'autre moitié masculin. C'est une différence biologique notable qui les différencie ici en les rendant complémentaires, phénomène observé chez la majorité des espèces terrestres à des fins reproductives. Néanmoins, et malgré tous ces points communs, l'être humain a surtout choisi de remarquer que les petits n'étaient pas grands et que les moches étaient moins beaux que les autres. Un ensemble de règles et de comportements humains subjectifs a abouti en une sorte de classification de tout. Ainsi, les êtres humains ont établi des normes et des échelles. Ils ont donné, ou n'ont pas donné, de la valeur à tout ce qui les entourait. Ils ont notamment donné une valeur à chacun d'entre eux, calculée en fonction de plusieurs critères, comme nous venons de le voir, physiques et ou moraux, admirables et ou répréhensibles, profonds et ou superficiels, spirituels et ou matériels. Parmi ces critères de valeur subjectifs mais puissants, appliqués à chaque être humain, l'un d'entre eux, celui qui nous intéresse aujourd'hui, est son activité professionnelle. Ainsi, même si à chaque époque on fera attention à le dire plus ou moins fort et plus ou moins différemment afin de respecter la morale variable de son temps, on différenciera un respectable médecin d'un modeste éboueur. On ne traitera pas de la même manière une juge et une prostituée, pour ne pas dire pute. On n'imaginera pas un bûcheron se reconvertir en prix Goncourt, ni une ministre en ouvrière. On acclamera les grandes sportives en moquant gentiment les hôtesses d'accueil, etc., etc. Conclusion. Chaque être humain a une valeur sur le marché de l'être humain. Non seulement il peut être beau ou laid, intelligent ou idiot, mais il peut aussi être CSP+ ou chômeur. Cette valeur métier, malgré son caractère très subjectif, est assez universelle, encore une fois en fonction de l'époque, et elle est très rapide à se décrypter dans les relations interhumaines. Je vous présente Monsieur Jean-Jacques Morten Biden, PDG de Morten Biden Consulting Group. Lui, par exemple, les êtres humains l'appelleront Monsieur, ils y mettront du vouvoiement et ne lui couperont pas la parole. Il signera probablement son autobiographie par G.G. Morten Biden, ses simples mais puissants initiales. Là où une autre approche chez un autre être humain de même patronyme, « Salut, moi c'est Jean-Jacques, je suis le nouveau pion », amènera vers une valeur métier différente. Ce Jean-Jacques-là n'a pas besoin de nom de famille, ce n'est pas l'intérêt ici. Jean-Jacques est pion, Jean-Jacques est cool, et avec Jean-Jacques, on se tutoie. La valeur métier est devenue, avec l'avènement du capitalisme, le second critère de différenciation des êtres humains après le critère physique. Quand un être humain parle à un autre être humain pour la première fois, il le juge d'abord physiquement, puis lui demande généralement son métier afin de pouvoir le juger une seconde fois. La réponse du deuxième être humain permet de confirmer ou non le premier jugement physique. Tiens, il est beau, mais il est bête. Ou encore, tiens, je la trouvais quelconque, mais maintenant qu'elle vient de me dire qu'elle était actrice de cinéma, je lui découvre un nouveau charme que mon premier jugement n'avait pas su lire chez elle. Par la suite, et au cours des conversations plus abouties entre les êtres humains, naissent tout un tas d'autres critères de valeur qui permettront d'affiner les deux premiers, physique et métier. En fait, la valeur métier est si importante qu'elle est étroitement liée à une autre valeur très importante aux yeux des êtres humains, la valeur monétaire. Un métier apporte un salaire. Généralement, on observe que la valeur métier suit à peu près le curseur de salaire associé à ce métier dans l'imaginaire collectif des êtres humains. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus important. Si, dans une certaine mesure, un juge d'instruction est respecté parce qu'il déclame la parole de la loi, il l'est surtout parce qu'il pèse dans la balance. Et s'il pèse dans la balance, c'est parce qu'il a les poches bien remplies. Or, il s'avère que selon les études de notre institut, la dite balance humaine est biaisée. Il s'avère que les salaires des différents métiers des êtres humains ont été fixés sur de mauvais critères. Il s'avère que les salaires des métiers humains devraient tous être revus et ajustés. C'est un objectif de la plus haute importance dans la mesure où la valeur métier, pour rappel, seconde valeur la plus importante de l'humanité aujourd'hui, est par conséquent faussée. Et avec elle, ce sont les rapports d'interaction entre les êtres humains qui sont également faussés. Ce qui est catastrophique à une époque où la mondialisation croissante augmente les rapports et échanges entre les humains, et donc les erreurs d'appréciation qui peuvent les mener à de grandes confusions, voire catastrophes, si la valeur métier ne venait pas à être rétablie en fonction de bases saines. Notre institut a recherché le meilleur moyen pour redéfinir un salaire juste à chaque métier, et ainsi rétablir la valeur métier, et avec elle, les rapports humains. Il s'avère que la solution tient en un mot, grève. À partir d'aujourd'hui, le salaire d'un corps de métier humain et sa valeur métier constitutive et correspondante sera calculé de la manière suivante. Tous les êtres humains exerçant ce métier devront se mettre en grève simultanément. Plus les êtres humains n'exerçant pas ce métier se montreront gênés par la cessation d'activité de ceux l'exerçant, et plus le salaire du dit métier deviendra important et, par voie de conséquence, sa valeur métier. Ainsi, la Terre se repeuplera peut-être de stars ouvrières et de putains CSP+. Les Amex passeront peut-être des poches des traders à celles des élagueurs, et les bobos pousseront peut-être leurs enfants à ramasser les poubelles des PDG. Les études projectives de notre institut montrent que cette solution ne résoudra absolument aucun problème social chez les êtres humains. Mais elle aura au moins un mérite, en remettre certains d'entre eux à leur place.
C'est superbe. Ça commence comme du Houellebecq et ça finit comme du Mélenchon. J'adore cette chronique.
C'est exactement ça. J'ai noté Houellebecq d'ailleurs dans mes notes. Je me suis dit, valeur sur le marché de l'être humain. Oh putain, Houellebecq sort de ce corps.
Ouais, c'est clair.
C'était des. Qui est-il ? Qui était le narrateur ? Des extraterrestres qui vont aller enseigner la grève générale d'extraterrestres syndicalistes communistes.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est
ouais.
Ça ? Ils font, oh les gars, camarades, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est un peu ça l'idée.
Oui, il y a un peu de ça. En fait, pour être tout à fait honnête, on s'est dit, quand j'ai écrit ça, il n'y avait absolument rien de SF dedans. Et du coup, je me suis juste dit que j'allais mettre un institut un peu.
Ah, bah, bravo.
Et du coup, oui, ça pourrait en effet être des extraterrestres gauchistes. Oui.
J'aime bien l'idée, moi. J'aime bien l'idée des aliens de gauche qui viennent.
Ça existe forcément. Si les aliens existent dans l'univers, il y a forcément différents courants de pensée.
Alors, à voir.
Déjà, si les aliens existent, est-ce que le concept d'alien qui existe, c'est plutôt de gauche ou de droite ? Est-ce que les aliens de base sont de gauche ou de droite ?
Le concept d'aliens qui existe est de gauche. Après,
pourquoi ?
C'est pas la...
Pourquoi ?
Bah parce que ça, t'as envie de rencontrer des nouvelles personnes, t'as envie de partager quelque chose.
Alors, écoute, pour l'instant, on les voit pas, donc ils sont de droite.
Non, je te parle du concept de
ah,
est-ce
oui,
qu'ils existent.
Oui, non, je parle des aliens.
Avoir envie qu'ils existent, en tout cas. Après, les aliens eux-mêmes, oui, non. En fait, ça dépend.
Moi, je pense qu'ils sont de gauche parce que c'est un peu la diversité, tu vois.
Alors, les aliens,
c'est la tolérance de enfin jusqu'à ce qu'on arrive à la guerre des mondes, mais et là c'est vraiment les aliens d'extrême droite quoi.
Ouais, ça dépendra desquels, mais effectivement peut-être il faut différencier les aliens qui ne voyagent pas des aliens qui voyagent. Les aliens qui ne voyagent pas, on peut pas savoir.
les aliens qui voyagent, c'est qu'ils se sont quand même payés des sacrés vaisseaux. Et donc, ils
donc
sont
c'est de droite.
Ouais, d'accord.
Non, ça peut être des aliens backpackers. Ils dorment dans des auberges de jeunesse galactiques.
Ouais, et... à ce moment-là, on n'est pas prêt de les voir. Ou alors, il va arriver tout seul, genre comme ça, et puis il va faire la manche avec une guitare. Et...
T'imagines les... Oh, les boules, quoi. Oh, ah, le premier contact, le mec, il chante du zaz.
Ou l'équivalent, en tout cas, martien ou népunien.
Bah, franchement, ça peut très bien être la même chose.
C'est pas faux, ouais.
Formidable. Moi, j'aime l'idée du monde où... où t'arrives, tu fais papa, maman, je vous présente mon petit copain, il est directeur marketing, et ton père qui fait quoi ? Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule ? Dehors ! c'est un peu ça l'idée, quoi.
Ouais,
et après, à côté de ça, tous les éboueurs,
chose
les,
qui doit peut-être arriver
les livreurs, les livreurs, c'est les rois du monde, les livreurs.
C'est ouf. C'est ouf. Bon. Non, mais en fait, c'est une idée que j'ai, qui me trottait dans la tête. Je sais plus où j'ai entendu ça, lu ça, entendu ça, ou quelqu'un m'en a parlé. Mais ce truc de se dire, pour redéfinir un salaire, ça serait intéressant que si tout ce corps de métier se met en grève, tu vois un petit peu la valeur de ces métiers-là dans la vie, quoi. Et
le problème, c'est que c'est court-termiste.
Bien sûr. Non, mais bien sûr, t'as des problèmes.
C'est pour ça que j'aime bien comme tu l'as, parce que tu m'en as déjà parlé de cette théorie, que j'adore énormément. Ouais. Mais, je t'avais déjà dit ça, c'est un peu court-termiste.
Oui.
Et du coup, j'aime bien comme tu l'as désamorcé en disant que ça ne règle aucun problème dans la société, mais au moins ça les remet à leur place.
Ouais.
Et c'est pas plus mal, j'aime bien ça.
Mais c'était la gauche, il me fallait une conclusion pour pas que vous me tombiez dessus. Hein.
C'est vrai que si tous les directeurs marketing font grève, au pire, on aura
pas les couilles, quoi.
Des packaging moins c'est bien clair. Designés. Et encore, même pas sûr. Hein.
Mais non, parce que.
Ils seront peut-être encore mieux designés, ils seront encore plus beaux parce qu'il y aura pas de. Les graphistes, ils auront pas de filtre. Simplement, ça vendra plus du tout le produit.
C'est clair.
Ce sera beau. Ce sera magnifique, mais c'est tout, quoi.
Mais non, mais effectivement, t'as peut-être des métiers que tu n'as pas l'impression qui sont utiles. Et donc, au début, tu t'en foutrais. Et hop, allez, eux, on leur file genre 100 balles par mois. Et en fait, à terme, et sur le long terme, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, ils sont pas utiles. Si inutiles que ça.
Ouais. Mais en fait, il faut tester sur un an, je pense.
Ouais, ouais, il faut tester un moment.
Mais du coup, ça fait beaucoup. Hein,
peut-être même plus que moi, je pense aux artistes qui sont sur un an, les artistes arrêtent de travailler. C'est relativement indolore dans le sens où tu vis et tout ce que tu as eu avant d'art. Mais vivre une vie complète avec plus rien de nouveau qui sort, musique, film, peintre.
Bah non, mais par contre, ça peut remettre les choses à sa place parce que si demain les artistes arrêtent de peindre pendant un an, ça peut pas changer grand chose. Mais si les mecs qui vendent et achètent les œuvres d'art, etc., et tout s'arrête pendant un an, là tu vas te rendre compte des vrais artistes, de ceux qui ont subi la spéculation et qui ont grandi un peu trop rapidement à cause de ça.
Ça devient super politique le truc. Allez, les garçons, on est apolitique, on est de centre, on est le podcast Bayrou, on arrête tout de suite les conneries.
Ouais. Enfin voilà. Bon, à tester. Mettez-vous en grève hein, en tout cas. C'est,
ça va pas changer grand chose. Hein, voilà. Je vous ai déjà parlé de mon bullshit job, non ? Ça va pas changer grand chose.
Moi, je voulais ajouter un petit truc. Déjà, je relève les moches sont moins beaux que les autres, que les beaux, et les petits ne sont pas grands. Enfin, je sais plus exactement ce que tu as dit, j'ai bien aimé. C'est toujours ce genre de choses.
Il va mettre une note sur ta chronique,
bientôt. Il faut féliciter. Mmh. Oh, bah non, c'est lui qui met des notes en général. C'est lui qui est là, il fait genre ça oui, ça non, ça oui, bien, peut s'améliorer. Oui, non, ça arrive, ça arrive.
On l'enlève du podcast, allez,
hop. D'ailleurs, vous savez pas, mais à l'épisode 0 qu'on a testé, on était 4, et Vic a licencié le 4e.
Il s'appelait Robert.
Salut Robert, si tu nous écoutes. Salut Robert. C'est vrai qu'il y avait un petit Robert au début, mais on l'a perdu. C'était notre voix, elle s'appelait Robert, voilà. Vous savez tout. Je voulais dire un truc. Tu dis que... c'est quoi, je vais attaquer ta chronique, mais pas méchamment.
Vas-y.
Tu dis que les hommes, ils se jugent. Alors, mais d'abord le physique, puis le métier. Ça, c'est vraiment en Occident. J'en sais rien du tout. J'ai entendu dire qu'en Arabie Saoudite, pour se définir, on se dit pas, voilà, moi je suis Jean-Paul, je travaille, je suis comptable. Je suis Jean-Paul, j'ai 7 enfants. Et en fait, c'est le. Et plus t'as d'enfants, plus t'es respectable. C'est ce que j'ai entendu dire.
J'ai 7 enfants et un tigre.
C'est surtout ça, non ?
Je fais des roues arrière avec mon 4x4 dans le désert.
C'est ça.
Et toi ?
Et 3 faucons.
Oui, j'ai une dizaine de faucons. Et ils sont prêts, ils volent au-dessus de toi. Je peux les faire fondre sur ta gueule. Fondre qui tombe hein, du non, ciel. Pas fondre comme ça. Ils sont pas en glace.
En tout cas, effectivement, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a c'est la valeur famille qui est plus importante
c'est ça.
Que la valeur métier. Parce qu'ils ont pas de métier, ils sont tous maniaques du pétrole. Donc ça va, c'est
après, voilà, j'allais dire. J'avais entendu ça à l'époque, je sais pas si c'est vrai, c'est faux. Si vous êtes un riche émir arabe, envoyez-nous un message. On sait jamais.
On vous invite dans le podcast.
On a des gens qui nous écoutent là-bas. Hein. Je crois qu'on a des gens qui nous écoutent. On n'a pas beaucoup d'écoute, donc on doit en avoir 30 ou 40.
Moins.
Mais non, mais il y a peut-être un mec qui nous écoute en Arabie Saoudite qui peut nous dire, ou aux Émirats Arabes Unis, je ne sais pas exactement.
Tiens-nous au courant. Ça dépend peut-être, ça dépend de toute façon sans doute de la culture.
Ouais,
mais ça aussi, j'avais essayé de le désamorcer en disant que, après, quand les conversations se prolongeaient, tu affinais un petit peu ta capacité de.
Oui, c'est vrai. Non, mais t'avais pensé à tout, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un 19.
C'est un B+.
C'est un
je préfère noter à l'américaine. Je trouve ça vachement plus
grave. Moi, je note avec des.
Ah ouais, ça ne veut rien dire.
Moi, je préférerais noter sur 100.
Sur 100 ?
Ouais.
Bah, ça, c'est à l'anglaise, non ?
Je sais pas.
C'est ce côté un peu cool. QCM et tu notes sur 100.
Ça fait très jeu vidéo, surtout en pourcentage.
Ouais.
Pourcentage, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah ça, non, ça fait plus jeu de rôle.
Ah, oui, ah oui, c'est vrai.
Oui, en pourcentage.
Non, mais gardons B+, parce que j'aime bien l'idée, mais pas B+, B-, machin. J'ai plus l'idée de se noter avec des groupes sanguins.
Ça, c'est
O négatif. Ouais. C'est pas mal. Attention, je vais faire bouger le micro. Hop, voilà.
Ni vu ni connu, Thomas.
De toute façon, si les gens n'aimaient pas les bruits de micro, ils ne les écouteraient pas. Hein.
Non,
je pense qu'on est une frange importante de nos auditeurs qui écoutent pour le côté ASMR du micro qui.
Mais un
qui
jour, bougeait. On va se prendre des micros sans fil.
Et ben, on va écouter ta chronique, Florian, et j'espère qu'elle sera bien. Sinon, on lui mettra un O négatif.
Un AB au moins, non ?
Un AB, ouais.
AB neg, tu vois.
La grève des étoiles.
Étoile numéro 942786 prolongée.
Le scintilleur a de nouveau rempli sa mission. À la seule force de son index, il a prolongé la vie d'une étoile perdue dans l'espace. C'est le job du scintilleur, faire en sorte que les étoiles continuent de scintiller, et ce jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, l'information est instantanément transmise à l'ordinateur du scintilleur. Celui-ci retranscrit la donnée en un courant électrique qui est lui-même envoyé à l'un des interrupteurs qui compose le gigantesque panneau de contrôle de l'opérateur. Le bouton se part ensuite d'une flamboyante lumière rouge qui clignote à l'unisson avec un signal sonore bref mais intense au rythme de 100 pulsations par minute. Le scintilleur n'a alors qu'une poignée de secondes avant de le presser, une minute tout au plus, sans quoi l'étoile rentre en autocombustion et se transforme en supernova. Tel un cœur qui s'emballe, l'astre se met à scintiller de plus en plus rapidement avant de réduire à nouveau la cadence. Une fois que son carburant est pleinement consumé, elle libère une quantité phénoménale de photons dans l'espace avant de s'éteindre à jamais. Du point de vue de la salle des commandes, l'étoile semble ainsi se décrocher du tissu spatial en laissant derrière elle une traînée argentée qui fend le vide intersidéral. Un spectacle somptueux, mais mortel.
Étoile numéro 221 532 750 prolongée.
Des interrupteurs, il y en a plusieurs millions, voire même plusieurs milliards sur le panneau de commande. Si l'idée lui est déjà passée par la tête, le scintilleur ne les a malheureusement jamais comptés. Ce n'est pourtant pas le temps qui manque à l'opérateur. Certes, un interrupteur s'allume environ toutes les 2 ou 3 secondes, mais en temporisant légèrement, il est arrivé à les synchroniser plus ou moins par grappe d'étoiles. D'une légère contorsion, il peut ainsi appuyer sur plusieurs boutons en même temps, une vingtaine tout au plus, mais juste ce qu'il faut pour s'accorder plusieurs précieuses minutes de répit entre deux vagues. Malgré tout, il ne comprend rien à leur fonctionnement. Non pas qu'il se questionne sur la manière dont un interrupteur agit en tant qu'interrupteur, mais il n'a aucune idée de ce que ces boutons provoquent chez ces étoiles afin qu'elles prolongent ainsi leur vie. À ce qu'il sache, ça pourrait tout aussi bien être un ingénieux et complexe mécanisme de pompe à combustible qu'une bête en poule grillée puis remplacée sur un gigantesque circuit électronique. De ces astres, comme du reste de l'univers, le scintilleur ne sait donc rien d'autre que ce qu'il a devant ses yeux. Un immense panneau de contrôle et une paroi de verre à 360 degrés qui le sépare du vide. À part ça, il ne sait rien, du tout. Il est arrivé dans cette pièce du jour au lendemain sans aucun souvenir de qui il a pu bien être avant ou même s'il a déjà été avant la première fois qu'il a appuyé sur un de ces fameux interrupteurs. Il ne sait pas non plus s'il existe quelqu'un d'autre comme lui dans l'univers, ou quelqu'un d'autre tout court. Il n'a jamais été confronté à aucune autre forme de vie. L'autre n'existe pas pour lui. Dans la vie du scintilleur, il n'existe que lui, les étoiles et les boutons qui permettent de les maintenir en vie. Il a donc vite appris à appuyer sur ces derniers pour éviter qu'un jour il n'y ait plus définitivement que lui et des boutons rouges sans aucune utilité.
Étoile numéro 405 333 129 prolongée.
L'entreprise du scintilleur est une machine parfaitement huilée. Un bouton s'illumine, il appuie dessus, une étoile est sauvée, puis il recommence quelques minutes plus tard. Il existe cependant quelques rares exceptions où l'opérateur omet sciemment d'effectuer sa tâche. Ce sont ses anniversaires. Tous les ans, à la même date, lorsque la montre du scintilleur affiche minuit, il relâche la pression et attend qu'un interrupteur s'illumine. Lorsque les bips sonores commencent à retentir, il se met alors à décompter les secondes dans sa tête. Ce n'est qu'au moment où sa petite aiguille mentale frappe à nouveau le chiffre 0 du cadran, lui aussi mental, que l'étoile en question se met à scintiller de plus en plus fort et de plus en plus rapidement. Dans un dernier éclat, elle se décroche de la tapisserie bleue nuit et disparaît en laissant derrière elle une sublime traînée de poussière argentée. Un véritable feu d'artifice cosmique. C'est certainement le cadeau le plus mégalomane qu'un être vivant puisse s'offrir. Une petite excentricité qui coûte la vie d'un astre vieux d'une centaine de millions d'années. Ou devrais-je dire, plusieurs astres d'ailleurs. Depuis quelques années, le nombre d'étoiles que le scintilleur s'autorise à voir mourir augmente. Elles n'étaient qu'une poignée il y a seulement 100 ans, mais elles sont désormais des dizaines à prendre part au spectacle pyrotechnique. Malgré tout, ces étoiles ne sont que quelques grains de sable dans le vaste désert que représente l'univers. Grains de sable qui, pourtant, vont bientôt faire s'enrayer la machine bien huilée du scintilleur.
Étoile numéro 967536 prolongée.
L'ennui. C'est fou ce que c'est ennuyeux, l'ennui. Tout le monde sait que l'ennui est la résultante d'un manque d'activité ou de choses à dire par manque d'activité. Mais on oublie à quel point l'ennui en soi est d'un ennui mortel à raconter. La majeure partie du temps, le scintilleur se parle à lui-même et c'est souvent suffisant pour créer l'illusion de la compagnie. Il arrive ainsi à dialoguer, à débattre, à se raconter des blagues et même à rigoler à ses propres blagues. Mais le plus dur, c'est vraiment quand il s'ennuie. Car alors, il ne trouve rien d'intéressant à partager avec lui-même, et vice-versa. Dans ces moments-là, qui restent toutefois relativement rares, le scintilleur se met à réfléchir. Ses premières réflexions ne sont pas des plus importantes. Qui suis-je? D'où viens-je? Font partie de ces questions qui ne concernent que le passé de l'opérateur, et qui, par conséquent, n'ont que peu d'intérêt à partir du moment où il est impossible d'y répondre. Qu'il soit l'héritier d'un lointain royaume ou bien un vulgaire ouvrier à la solde d'une corporation d'entreprise, ne change rien à ce qu'il fait aujourd'hui ou ce qu'il fera demain. Il est et restera jamais le scintilleur. Néanmoins, il existe des réflexions d'une bien plus grande importance. Des questions qui peuvent influencer l'univers tout entier et l'existence même de la vie. Comme par exemple, est-ce que quelqu'un sait que j'existe? Ou encore, si j'arrête d'appuyer sur ces boutons, qui le remarquerait? Un doute tout à fait légitime. S'il est le seul être vivant de l'univers, la disparition des étoiles ne manquerait à personne d'autre que lui. Et au moins, ça ferait un bon sujet de discussion avec lui-même durant les longues soirées d'hiver cosmiques. De la même façon, si ce vaste désert de vide est peuplé d'autres individus, alors il y a fort à parier qu'il n'ait jamais entendu parler du scintilleur. Auquel cas, personne ne pourrait lui en vouloir d'avoir laissé mourir la totalité des étoiles. Il dirait certainement que c'est le destin, la juste nature des choses, ou peut-être même une force mystérieuse. Au pire, on chercherait éventuellement la cause de ce désastre et on finirait à la longue par tomber sur lui. Dans tous les cas de figure, le scintilleur n'en a clairement plus rien à faire.
Étoile numéro 52 prolongée.
Minuit. Le jour tant attendu est arrivé pour l'opérateur. C'est son anniversaire. Il le prépare depuis plusieurs semaines déjà. Cette année, il s'est fixé la limite de 100 000 étoiles, ni plus ni moins. Il le mérite après tout. Le scintilleur se sent vieux et fatigué. L'année a été dure, plus que les précédentes. Mais ce soir, il s'accorde un peu de répit. Et le spectacle promet d'être magnifique s'il suit son plan. Il a placé un fauteuil en plein milieu de la pièce, direction sud-sud-est, à 120 degrés en dessous du plan de l'écliptique. La meilleure vue selon lui. Le feu d'artifice devrait bientôt commencer d'après ses calculs. Lentement, il s'assoit, pose sa canne et attend. Le premier bouton s'illumine, suivi d'une alerte sonore. Très vite, le scintilleur oublie l'existence de la sirène qui siffle dans ses oreilles. Il se concentre sur ce qu'il voit et fait l'impasse sur tout le reste. La lumière rouge de l'interrupteur clignote plus rapidement. L'opérateur cherche alors du regard l'étoile à laquelle il est virtuellement relié. Il scrute le moindre signe de vacillement, le moindre tremblement de luminosité, mais la tâche est difficile. Il ne la trouve que lorsqu'elle entre en fusion et brille presque 100 fois plus fort que ses voisines. Quelques secondes plus tard, elle s'éteint, avant de cracher un jet de photons d'une puissance telle qu'elle éclipse les autres astres de la région. Il a choisi tout particulièrement cette étoile pour commencer son spectacle d'anniversaire. Située en plein centre de son champ de vision et plus grosse que la moyenne, c'était la parfaite candidate pour lancer le signal de départ. Peu de temps après, ce sont désormais des dizaines d'interrupteurs qui s'allument et éclairent la pièce de leur lumière rouge. Les étoiles commencent alors à tomber comme des lucioles, toutes proportionnellement réparties. Le plan se déroule sans accroc. Le scintilleur a calculé les explosions à la seconde près, pour les coordonner et former de sublimes motifs. Ce sont de magnifiques tableaux pointillistes lumineux qui s'enchaînent les uns après les autres. La tapisserie s'anime de centaines de traits lumineux, il transperce la toile de part en part et donne une impression de mouvement organique. Une heure après le début du spectacle, le bouquet final commence. Les étoiles explosent par grappes à un rythme phénoménal. Un jardin de fleurs improbables se dessine devant les yeux du scintilleur. La lumière est éblouissante, à tel point qu'il doit porter sa main devant ses yeux. Les flashs de lumière continuent et s'enchaînent, encore plusieurs secondes, puis s'interrompent brusquement. Le spectacle est désormais terminé. Plus de 100 000 étoiles sont mortes par la faute de l'opérateur. Les lumières rouges s'éteignent une à une, en expirant leur dernier souffle. Le calme revient tout doucement dans la salle des commandes. Le scintilleur ferme les yeux, comme pour profiter une dernière fois de ce qu'il vient de se passer. Mais une alerte le sort rapidement de sa rêverie. La pause est terminée. Il doit reprendre le travail. Il se lève péniblement de sa chaise et attrape sa canne. C'est à ce moment-là qu'un grain de sable minuscule s'infiltre dans son esprit. Ce n'est qu'une pensée, à peine une idée, mais elle rentre et se faufile doucement entre les rouages de son cerveau pour trouver le plus faible, le moins bien entretenu, celui qui est le plus susceptible de s'arrêter si jamais il rencontre la moindre résistance. Très rapidement, elle le trouve et s'installe paisiblement. La réaction est instantanée et ressurgit en réflexion. Et si je restais assis encore quelques secondes? Personne ne m'en voudra? Allez, encore quelques-unes, scintilleur. Tu l'as bien mérité. Alors qu'il est mi-debout, mi-assis, la canne à la main, l'opérateur se laisse emporter par la gravité et retombe sur le fauteuil. Il ferme alors les yeux. Cette fois-ci, le spectacle n'est pas tant à l'extérieur de la salle des commandes qu'à l'intérieur même du scintilleur. Peu importe les étoiles et leur poussière argentée. Peu importe les alarmes et leurs vibrations qui saturent l'air. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression d'être libre. Son visage creusé par le temps se pare d'un léger sourire. Les étoiles entrent en fusion les unes après les autres et provoquent des réactions en chaîne incontrôlables. L'univers tout entier s'embrase comme une flaque d'huile. La lumière est si forte qu'elle transperce la membrane de ses paupières et frappe douloureusement sa rétine. Il a beau se cacher derrière sa main ou son bras, rien n'y fait. Il voit comme en plein jour. Il tente d'ouvrir légèrement ses yeux, mais tout n'est que blancheur extrême autour de lui, et il n'arrive pas à les maintenir dans cette position. Il se cache difficilement derrière son siège, se déplaçant à tâtons, mais cela ne fait aucune différence. L'air est brûlant, et chaque respiration le fait souffrir. Il aimerait pouvoir crier, mais le simple fait d'ouvrir la bouche lui est insupportable. Puis tout à coup, la lumière disparaît, aussi vite qu'elle est apparue. L'air redevient respirable, et les sirènes se taisent. L'espace d'un instant, le scintilleur pense être devenu aveugle. Il ne voit plus rien. Il lui faut quelques minutes, le temps que ses yeux s'habituent, pour que la salle des commandes se dessine à nouveau devant lui, sa paroi vitrée, ses milliards d'interrupteurs et le vide spatial, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Il traîne un temps dans cette pièce devenue inutile, comme lui. Les interrupteurs s'éteignent les uns après les autres. Les parois de la salle perdent leur couleur rouge. Les ténèbres s'emparent de l'espace, faute de source de lumière suffisante. Et bientôt, tout est d'une noirceur impénétrable. Le scintilleur s'allonge sur le sol en verre et ferme les yeux, en attendant que lui aussi s'éteigne à jamais. La lumière voyage à un peu moins de 300 000 km par seconde, bien plus rapidement que le son. Pourtant, c'est la sirène caractéristique qui frappe le scintilleur en premier. Déboussolé, les muscles complètement engourdis, il se lève pourtant à une vitesse folle. Il sait très bien ce que cela signifie. Sans même prendre le temps de regarder l'interrupteur, il la cherche, désespérément. La survivante, la dernière étoile de l'univers. Elle est là. Sa lumière est faible et tremblante, mais elle ne semble pas vouloir s'éteindre. Il l'observe pendant de longues minutes. Le temps est largement écoulé pour appuyer sur l'interrupteur. Elle devrait déjà être morte. Pourtant, elle est encore là, s'accrochant à la vie. Alors d'un geste automatique, presque robotique, l'opérateur attrape sa canne et se déplace jusqu'à la console. Il tend la main au-dessus du bouton et de son index, il le presse.
Étoile numéro 1 prolongée.
Alors Vic, raconte-moi, pourquoi tu as fact-checké comme ça pendant toute la chronique?
Ah, j'ai pas fact... Si, j'ai fact-checké un truc, la vitesse de la lumière, parce que je voulais te dire n'importe quoi, c'est pas moins de 300 000.
Et c'était ça.
Bah oui.
Oui, c'était ça. J'ai vérifié, j'ai des sources tout de même.
Tu n'as pas détruit la Terre comme à ton habitude, non. Car tu t'y étais engagé.
Tout à fait.
Néanmoins, tu as détruit quelques étoiles.
Oui, quelques-unes. Je me suis dit, au début de la chronique, c'est vengé. Et j'ai noté. Il va tuer le soleil, ce bâtard. Ce. Je me dis, putain, il va pas tuer la Terre, il va tuer le soleil, fils de pute.
Mais en fait, c'est, quand tu réfléchis, c'est quand même génial. Il s'est engagé au dernier épisode à ne pas détruire la Terre, ce qu'il n'a pas fait. Détruisant le soleil,
il y a très forte chance.
Il y a quand même de très fortes chances qu'il détruise la Terre sans perdre son pari. Et ça, c'est très très fort.
Bravo.
Non,
Toutes mes chroniques vont désormais tourner autour de ça.
c'est,
c'est...
Changer l'axe de d'orbite de Mars pour soudain
c'est ça.
Faire un carreau sur la Terre, paf, ouais. Ça prend la place.
J'ai trouvé que c'était un texte techno-new age. Enfin, il est super cosmique, en même temps un peu technologique.
C'est vrai. Bah, et d'ailleurs, tu as raison, la musique... que j'ai prise est une musique de relaxation spatiale.
Moi j'ai été spatialement relaxé là.
Ah, on est d'accord.
Très très ouais. Spatialement.
Mais cet épisode de manière générale est assez relaxant.
Sauf l'intro.
Oui, sauf l'intro, on est un petit peu.
Oui, c'est un peu moins relax.
Est-ce que c'est pas un bel écho à la chronique de Vic finalement ? Que c'est le job le plus bullshit possible qui est le plus important de l'univers pour le cas.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que là, le mec, putain, c'est low-tech. Hein. Il doit appuyer sur des boutons.
Ouais, laisse tomber.
Ils n'auraient pas pu automatiser. Non, 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 c'est un mec. On le met là, on ne lui explique pas le job. Il n'a pas de salaire, visiblement. Il est
exploité. Bah non, clairement pas. Et on ne sait même pas si. Moi, personnellement, je ne me suis même pas intéressé à ce qu'il peut être, si c'est un être humain ou si c'est quelque chose d'autre, ou s'il mange, s'il dort. Je ne me suis même pas intéressé à ça.
C'est drôle. J'avais mis il est où le scintilleur ? Parce que tu parles d'une boule, tu y reviendras. Ensuite, j'avais mis il a une forme humaine. Il mange quoi ? Et du coup, tu dis que tu t'es pas intéressé. C'est un petit peu faux, parce que tu dis qu'il a des index. Donc, je sais pas s'il a une forme humaine, mais en tout cas, il a des index.
Et s'il a un fauteuil, ça veut dire qu'il a un postérieur.
Ouais. Donc, c'est un index sur des fesses avec une canne.
Non, mais potentiellement, ça peut tout à fait être un corps humanoïde. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est un être humain,
c'est bien.
Si c'est une race,
c'est comme cette nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Je suis d'ailleurs, The Outsider, un truc comme ça, où il parle à la première personne de quelque chose qui grimpe, etc. Et tout. Et en fait, on ne sait jamais ce que c'est. Et la chute, je le dis parce que les gens la connaissent, puis c'est très court, c'est qu'il arrive devant un miroir. Il réalise de ce qu'il est, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et c'est un peu pareil. On ne sait pas ce que c'est, ça marche bien, c'est cool. Bravo.
Mais en tout cas, j'adorais effectivement le côté bullshit job, le plus important de l'univers total.
Bah ouais, mais pour le coup, pourtant précieux, quoi.
Exactement.
Précieux, quoi. Et tu imagines, ou ce n'est pas une question, mais qu'il y a eu d'autres scintilleurs avant lui, ou c'est le scintilleur du début ?
Je
le même, non ?
Je me dis qu'effectivement, il y a dû soit avoir d'autres ceintures avant lui, ou bien soit c'est un clone un petit peu à la... si je me trompe
tout
pas.
Tout à fait.
On l'a spoilé.
Ah oui, t'as
mais en plus, c'est dans genre les 15 premières minutes, non ?
Ah non, non.
Okay.
Ah, c'est la fin. Ouais.
Vous savez quoi ? Et on mettra un bip à la place du titre du film.
Et on mettra un bip aussi quand je vais dire des gros mots. Fente. On gardera Fente. Yes ! C'est ça qu'on veut. C'est ça, voilà. On va le mettre dans tous les épisodes du sound design, ça va être super.
C'est clair, c'est ça qui nous manquait en fait depuis tout ce temps. Quoi.
Pour être drôle.
C'est juste des gens qui nous le disent. Ajouter des rires derrière de gens morts, parce que les gens sont morts, hein. Vous savez. Hein. C'est des rires enregistrés dans les années 30 ou je sais pas clair, combien. Hein. Les gens sont morts. On rigole avec des gens morts.
Ne rigolez pas des gens qui sont morts.
Tellement gothique.
En tout cas, ce qu'il fait pour ses anniversaires, tu dis que c'est mégalomane, mais c'est quand même assez romantique, c'est quand même assez classe de pouvoir faire ça pour son anniversaire.
C'est classe.
C'est pas très sympa.
C'est pas très sympa, et surtout, c'est cool. Genre, c'est estimé que ta personne est si importante qu'elle mérite.
Mais il est tout seul en même temps, il n'a pas vraiment d'importance.
Il est même pas au courant de s'il y a des gens qui le voient.
Il sait pas.
Et puis il en a tellement devant lui des étoiles.
Bien sûr.
Du coup, moi, j'ai fact-checké le nombre d'étoiles, et en fait, on n'est même pas capable d'avoir le chiffre tellement c'est puissant.
Ouais,
enfin, c'est les puissances, justement. Et moi, les maths, vous savez, moi, j'ai déjà 2x4, je suis là en train de compter avec mes doigts. Attendez.
Alien et garçon, grand spécialiste de l'espace. Et... Ah, j'ai fact-checké le nombre d'étoiles, en fait, il y en a trop. On ne sait même pas combien il y en a.
Attendez, mais
même Google, il ne sait pas.
Il n'y a pas que le soleil. Il y en a plein.
Et la vitesse de la lumière, bah, c'est bien ça.
Attendez, parce que la lumière, ça se déplace.
On est des experts.
Et pourtant, putain, quand j'étais petit, j'étais tellement un expert, moi, les gars. J'avais tous les livres de mes parents, ils m'achetaient tous les trucs d'astrologie. Je connaissais les planètes, les machins, les circonférences.
Comme quoi,
tout.
Ça suffit pas hein.
Non, non, non.
Pour faire une carrière à la NASA.
C'est clair, ça suffit pas. Ça suffit pour avoir mention assez bien en bac, mais c'est tout.
C'est assez bien. Quoi.
Assez bien, ouais.
Bon. C'est vrai, c'est pas mal. Alors, cette chronique, elle était quoi ? Elle était AB, Oneg ?
Non, elle était bien. Elle était. Mais Oneg, tu dis Oneg, on dit Oneg.
Parce que moi, je suis un expert en Rhésus.
Et du coup, tu dis oppose.
Ouais.
Oppose. Elle était oppose.
Elle était oppose. Elle est à moins.
Elle est à moins ?
Ouais.
C'est bien déjà.
Ouais, c'est pas mal.
C'est bien.
Ça dépend quel est le critère du coup.
J'ai décidé que c'était bien.
Moi, je la trouve assez d'honneur universel. C'est quoi d'honneur universel ? C'est Oneg. Elle est Oneg, elle est d'honneur universel.
Ah oui,
elle est assez universelle.
Mais tu peux pas recevoir.
Non, receveur universel, c'est AB. AB Neg.
N'importe quoi.
Si,
mais,
si.
Mais n'importe quoi.
Receveur
AB, c'est le pire. AB,
non.
Mais
pour donner, c'est le pire. Pour recevoir, tu peux recevoir de tout.
Non,
le monde.
Non, faux.
Écoutez, mon père est donneur universel. Je lui passe un coup de fil en direct. C'est parti.
Ouais, papa.
Non, parce que les gens vont savoir que mon père est connu. Je lance des rumeurs, je sais pas pourquoi. Gratuit. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ces superbes mots et ces phrases magnifiques et cette voix douce et douceâtre et...
On remarque que le groupe sanguin AB est le groupe sanguin le plus rare dans le monde. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est donné universel. Non, moi j'avais juste une dernière question sur l'ennui. L'ennui, tu dis que quand on parle ou quand on fait des activités, on ne peut pas s'ennuyer en fait. Donc pour toi, l'ennui, c'est le fait de ne pas parler ou de ne pas faire d'activité.
C'est la résultante de pas d'activité ou de ne rien avoir à raconter par manque d'activité.
Ouais.
Si demain, je trouve ça réducteur. Tu fais rien du tout et que tu n'as rien à dire sur ce que tu ne fais pas.
Oh putain. Mais du coup, c'est ennuyant.
Non, mais il y a des gens qui parlent, mais qui le sont aussi ennuyants.
C'est vrai. Tu peux être très ennuyant. Nous, souvent, oui. par exemple, quand on débat sur les résus des gens.
Ce que je voulais dire, c'est que déjà, l'ennui en lui-même, c'est vachement ennuyeux à raconter. Quand tu peux pas raconter, j'ai du mal à raconter l'ennui.
Kafka
raconte l'ennui mieux que personne.
Est-ce que c'est pas ennuyant?
Ah bah Kafka est ennuyant, tu vas avoir des emmerdes avec Kafka, tu l'as déjà vu, il est hyper costaud. C'est un scarabée géant.
Super.
C'est pas un scarabée, c'est un cafard.
Oui.
On sait pas, je crois. Dans le livre, on sait pas, c'est ça la blague.
Bon, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pas s'ennuyer avec ton quiz.
Oh, quelle transition. Oh yes.
Oh Josh. Allez Michael.
Oh, wow. Allez, petite musique.
Ça y est, ça recommence là ?
Ah ouais.
Ok, d'accord. C'est bien ce qui me semblait.
Merci Vic.
C'est le quiz.
Mais du coup, on se met un générique complet de.
J'ai mis le dernier. C'était le générique de.
Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est bien d'avoir pris un réalisateur freelance.
C'est clair, ça fait vraiment du bien au podcast. Alors, je vous ai pas raconté.
Non.
Ce qui se passe à Hollywood en ce moment même.
Non, dis-nous.
Il y a tous les SFX designers qui vont bientôt se mettre en grève. Tous. Et du coup, j'ai été contacté.
Ah, tu veux faire un storytelling, j'adore.
Par Steven Spielberg.
Steven Spielberg.
Steven Spielberg lui-même, qui m'a demandé de rebruter tous les prochains films et tous les films à venir.
Ah, vas-y, il va donner de la personne.
Yes, yes, yes. J'adore. J'adore
et
ce qui va se passer.
Du coup, je vais vous en faire quelques-uns et vous allez me dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc.
Et on doit reconnaître ce que c'est.
Oui, il faut reconnaître et me dire si c'est bien, quoi. Parce que sinon.
C'est que des films de Steven Spielberg.
Non, c'est pas du tout que des films de Steven Spielberg.
Non, mais c'est juste pour Steven Spielberg.
C'est pas Steven Spielberg, c'est Steven Spielberg.
Oui, Steven Spielberg. C'est pas des musiques, c'est des sound design.
C'est des sound design de jeux vidéo ou de films.
Ah, de jeux vidéo aussi, d'accord.
Ouais.
Ok,
c'est important. Attends, on ne doit pas retrouver le sound design. On doit pas retrouver le sound design.
Vous devez retrouver l'œuvre.
Oh putain, c'est.
Oui, j'arrive à faire. C'est Jurassic Park 5.
Ok.
Très précis.
Très bien, ça va être. Je pense.
Sur Jurassic Park 3.
Encore, honnêtement, je disais que j'adorais les quiz, c'était ce que je préférais dans le podcast. Je pense que je vais encore pas être déçu, moi.
du coup, pour l'occasion, je pense qu'il n'y a pas d'équipe, parce qu'à mon avis, c'est quand même assez compliqué.
Moi, je veux mon nom d'équipe, sinon je ne joue pas.
Vous participez dans la même équipe. Je choisissais un nom tous les deux ensemble.
Notre nom d'équipe, c'est
George Michael.
George Michael,
ouais. George Michael Douglas.
George et Michael de l'équipe George Michael.
C'est bien.
Très bien. Et vous pouvez vous dire non, hein. Dans tous les cas, je vais compter, je vais pas compter les points parce que j'ai la
fin. Oui, non, mais que de la.
Allez, vas-y, allez, vas-y.
De toute façon, on compte jamais correctement.
Attention, c'est le premier extrait SFX. Waha!
Wahoo! Le livre de la jungle.
Mario!
C'est Mario, ah oui. Effectivement. Bah, j'ai commencé par un simple.
En fait,
les deux
j'aurais pu ne pas attendre le sound design venant de Florian, Nintendo sexuel as fuck. Mario.
Et n'empêche qu'on a, bien reconnu, non?
Mais quel talent.
On est d'accord.
Le premier, ça faisait un peu Mowgli. Et le deuxième, ça faisait Mowgli.
Je connais pas le bien. Mowgli, il fait pas de bruit ici.
Non, mais ça faisait un peu comme un singe dans la jungle, quoi, ton premier.
Oh, putain, très bien.
Alors, le prochain, il est simple aussi.
Continuons. Une mouche ?
La mouche de...
La mouche ?
Non.
Ah, Breaking Bad ?
Non.
C'est un truc dans les airs, c'est un truc qui vole. C'est un mec qui, c'est un mec qui se bat avec
Top Gun,
une mouche.
Top Gun ?
Non, putain, je crois qu'il était simple.
Mais on est d'accord que c'est un truc qui vole ?
Non, c'est pas un truc qui vole.
Ah, c'est pas un truc qui vole.
Ah ! Star Wars !
Ah !
C'est ça mon laser.
On avait une mouche.
Ça veut dire que je suis pas prêt pour Steven Spielberg.
Si, c'est super. T'es juste pas prêt pour George Lucas.
C'est vrai. Alors le prochain, je sais pas comment je vais le faire.
Mais si, tu vas y arriver. Ah bah oui. Le bon, la brute et le truand.
Jeu vidéo.
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption. Alors les pistolets étaient un peu.
Ton pistolet, il était un peu Star Wars.
Mais bon, c'est ok, non. Bon, c'est oui, podcast.
Non, mais c'est formidable, c'est superbe.
Mais,
et tu fais extrêmement bien les sabots de cheval qui
Merci beaucoup. Je l'ai fait à la bouche.
Oui, bien sûr.
Oh putain, le prochain. Je sais pas si je vais y arriver le prochain. Surtout qu'en plus, je sais en faire qu'un seul. Mais bon.
Ah, c'est Mickey.
Oui, c'est Mickey.
Il est fort. Ouais. Il est excellent. En fait, refais le mieux. Très bien.
Il y en a un. C'est un peu Mario aussi. Hein.
Je pense qu'il l'a pas mis, mais il y en a un qui fait excellemment depuis qu'on se connaît depuis l'école supérieure. C'est Julien Clerc. Je l'attends.
C'est vrai. Un jour, on l'aura peut-être.
Il imite extrêmement bien Julien Clerc. Ouais.
Je le sais. Ma préférence à moi,
etc.
Le prochain.
Encore une mouche.
Ah, c'est Indiana Jones.
Oui.
Putain, voilà, t'es très très fort.
Non, mais c'est le fouet. C'est le
tous
fouet.
Les deux très forts.
Non, mais la roue avant, les serpents, vous avez reconnu.
Ah, c'était la roue. Pour moi, c'était le gros truc qui.
Ça peut être aussi un volcan.
Bon, au début, je croyais que c'était un film de guerre avec des chars d'assaut.
Ah, non, mais
je me suis dit, te faire sortir ton char d'assaut et te mettre des coups de fouet, c'était un drôle de film de guerre.
Pour vous faire deux compliments, donc t'es prêt pour George Lucas. Il était producteur. Ah non, Spielberg, je crois que c'était les deux qui étaient producteurs, peu importe. Florian, tu as très bien fait les sons, simplement j'ai pas reconnu, et toi tu as été très fort aussi de reconnaître ça, enfin vraiment, vous m'époustouflez.
Mais ça va tellement vite par contre, je pense que le quiz va durer que 5 minutes.
Tu vas devoir en improviser d'autres.
Ah non, c'est dur, pouf, vous allez en faire vous.
Non, bah ouais.
Le prochain, j'ai besoin d'un accessoire.
Titanic 2. C'est ça, non?
Louf. Titanic tout court.
Titanic. Pourquoi Titanic 2?
Ah bah, je sais pas, c'est pas la suite, parce que Titanic est déjà fait.
Oui, mais il faut peut-être le redoubler un jour, on n'en sait rien, tu vois. Je me suis entraîné sur des œuvres actuelles.
Tu peux refaire Jack? S'il te plaît.
C'est parce que je me disais partout.
C'est excellent, excellent. J'adore ce qu'on fait.
De rien.
Pourquoi on fait pas que des quiz?
Et c'est déjà le dernier.
Oh non.
Si, ouais. Eh, mais ça fait déjà 6 extraits. Le temps passe vite quand
c'est Julien Clerc. C'est Julien Clerc,
non? Bah non, le dernier, ça va être.
Sur la Civic Park.
Pourquoi?
Ça faisait aussi un peu Star Wars.
Il y avait Chewie après.
Est-ce que je sais pas faire le T-Rex, mais je sais faire un peu Chewie, je me suis dit que ça pouvait passer, quoi.
Là, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Florian, est-ce que tu peux nous faire un petit supplément? Je sais que tu sais le faire. Est-ce que tu peux
le sais, sa façon d'être à moi parfois.
Les gens là, ils sont chez eux, ils disent, mais il y a Julien Clerc dans L'Aîné des Garçons. Il disait donc vrai, son père est vraiment célèbre, il était là. Et oui, mon nom de famille, c'est Thomas Clerc.
Thomas Clerc.
C'est pas ça que je voulais dire. Non, il y en a un autre que tu sais faire, mais tu l'as oublié.
C'est lequel?
Mars Attaque.
Attends, c'est quoi?
Il le fait très bien, n'est-ce pas? Je pensais que t'allais le mettre dedans.
J'avoue, j'ai oublié de le mettre.
Ouais, Mars Attaque, refais Mars Attaque un peu. Incroyable, les gens qui ont.
En fait, c'est un canard qui aspire. C'est un canard qui aspire son coin-coin, tu vois quoi, Mars Attaque.
Mais c'était peut-être ça pour de vrai en plus.
Mais je crois que c'est ça, je crois que
c'était le bruit de
canard et qu'ils ont inversé, ouais.
Les bruits de canard inversés, voilà. Et il y a des mecs qui ont un boulot facile.
Mais au final, c'est facile. Mais c'est pour ça qu'ils sont en grève. Parce que tout le monde se rend compte que c'est facile d'être SFX designer. Quoi.
Bah ouais. La preuve, tu viens de le faire juste pour rigoler.
Avec brio.
Exactement. Ah, et Julien Clerc.
Avec brio et Julien Clerc, c'est vrai.
En duo exclusif.
Bah voilà, c'est terminé. Mais vous avez gagné, bravo.
George et Michael ont gagné.
George et Michael ont gagné.
Mais comme d'habitude, ceux qui ont vraiment gagné,
c'est
les auditeurs. Parce que franchement...
C'est pas Hollywood, en tout cas.
Non, c'est pas Hollywood, non. C'est Pélo Hollywood. C'est une autre ambiance. Mais c'était franchement... Encore, t'as encore mis la barre du quiz encore plus haut. Le prochain épisode, on fait pas de reco, on fait un quiz quoi. Franchement, on nique les reco quoi.
Et on peut faire un sondage reco ou quiz, que préférez-vous dans L'Aîné des Garçons?
Envoyez-nous la réponse sur papier libre.
À la boîte postale ZX.
On va se dire au revoir, mais avant de se dire au revoir, il nous faut une musique. Qu'est-ce qu'on met comme musique?
Bon, on va mettre la sortie de ton sitcom.
Alors comme ça, on applaudit Florian.
Encore un superbe podcast d'Alien et les Garçons. N'hésitez pas à nous liker sur Twitter, sur Facebook, à partager à vos copains, à mettre des étoiles sur iTunes et surtout, envoyez-nous de l'amour.
Exactement, envoyez-nous de l'amour, envoyez-nous des messages, envoyez-nous des thèmes, on est contents. Parlez-en autour de vous, c'est super. Et quoi d'autre? On se revoit dans 3 semaines, comme d'habitude.
Comme d'habitude, ouais.
Allez, bisous.
Allez.